Chers amis, chers frères et sœurs, quand j'ai lu avec attention ces textes pour vous en parler, je me suis dit, oula, c'est un peu difficile. Surtout si on ne fait que les entendre. C'est un peu difficile. Et en même temps, c'est juste le trésor, le cœur de notre foi. Sur cette parole-là, celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et vous connaissez le nom du Fils unique de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus, cela veut dire Dieu sauve. Celui qui, au fond de son cœur, se dit que Dieu est un juge, eh bien, d'une certaine manière, il sera jugé. Celui qui, au fond de son cœur, croit que Dieu sauve, celui-là sera sauvé. C'est étonnant, hein ? Finalement, le salut ne dépend que de nous. Alors je vais revenir, il y aura deux parties. Je vais revenir sur la première lecture, qui est un texte un petit peu étonnant, c'est un texte historique. On en a l'explication là, donc ce qu'on a entendu nous raconte l'histoire de la fin de l'exil. Ça fait 70 ans que les Hébreux sont en exil à Babylone, et voilà que Cyrus, roi de Perse, décide de renvoyer les Hébreux chez eux et de favoriser la reconstruction du temple. Et cet événement, on le trouve dans la Bible, et on le trouve aussi par des sources babyloniennes, on le trouve par des sources d'architecture, etc. Donc on est sur un événement réel de notre histoire réelle. Réel au sens où même scientifiquement on peut le prouver. Et cet événement, c'est une action de Dieu dans l'histoire. Alors que les Hébreux sont absolument convaincus qu'ils sont abandonnés quasiment de Dieu, ils découvrent que Dieu prend soin d'eux. La promesse que Dieu a faite il y a bien longtemps, au moment de la sortie d'Égypte, « Je vais vous donner une terre », cette promesse, elle tient toujours. Elle tient toujours. Dieu est fidèle dans ses promesses. Et là, il y a une chose étonnante, c'est que les Hébreux n'ont rien mérité. Ils sont comme des petits-enfants à qui on fait un cadeau. Quand vous offrez un cadeau d'anniversaire à un enfant de 3 ans, est-ce qu'il a mérité ce cadeau ? Non. Mais vous, parents, vous l'aimez et vous voulez sa joie et son bonheur et vous lui faites un cadeau. Eh bien, Dieu agit de cette manière-là avec nous. Il n'attend pas que nous méritions, il nous fait le cadeau. Il tient ses promesses. Il renvoie le peuple des Hébreux sur sa terre, à Jérusalem. Vous savez que j'y étais pendant la semaine qui vient de passer à Jérusalem. Et effectivement, cette terre est marquée de la présence de Dieu. Depuis 2000 ans, depuis 4000 ans, cette terre se souvient que Dieu entre en relation avec son peuple. Et bien sûr, comme c'est la chose la plus importante de nos vies, c'est aussi la chose qui crée le plus de tensions possibles et imaginables. Alors les Hébreux n'ont rien mérité. Et dans la deuxième lecture, saint Paul insiste. Dieu prend soin de son peuple, mieux encore, il nous sauve. Et il le fait par grâce. C'est bien par sa grâce que vous êtes sauvés. Et ce mot « grâce », c'est un mot extrêmement important dans la réflexion chrétienne. Et en même temps, c'est un mot, on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire. En fait, la grâce, c'est l'amour que Dieu donne. Et quand on parle de l'amour de Dieu, le synonyme, c'est la vie de Dieu. Et ou encore, on pourrait dire la force de Dieu. Ou encore l'amour de Dieu. Ou encore Dieu tout entier. C'est tout synonyme de tout ça. La grâce, la vie, l'amour, la force, l'esprit. Mais quand on dit grâce, on insiste tout particulièrement sur ce fait que c'est gratuit. Quand j'étais plus jeune, j'avais un cousin, il est allé à un mariage d'un autre, d'une autre cousine, et il est arrivé auprès du buffet, il a demandé au serveur « c'est combien ?» Et le serveur lui a dit « bah, c'est pour toi, bah. » Et là, il est revenu vers la famille en disant « c'est gratuit !» Eh bien, avec le bon Dieu, on peut faire pareil. Et on peut le dire à tous, c'est gratuit. Le Seigneur, il attend juste une chose, bah, qu'on accueille ce cadeau. Qu'on l'accueille. C'était la première partie. Dieu prend soin de son peuple, Dieu sauve son peuple, Dieu lui fait grâce. Une deuxième partie. Jésus dit à Nicodème, à ce pharisien qui est intéressé par la parole de ce Jésus, ce rabbi de Nazareth. Et ce pharisien veut rencontrer Jésus, il le rencontre le soir quand on ne le voit pas et lui demande « Mais qu'es-tu? Qui es-tu? Que fais-tu ?» Et Jésus lui enseigne qu'il veut donner la vie aux hommes. Et il dit « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Le mot « jugement », c'est un mot qui est difficile. Hein. Le jugement, c'est en grec, c'est le mot « crisis », la crise. C'est donc forcément un jugement, c'est forcément un combat. Un combat qui, bien souvent, est d'abord et avant tout en nous. Si nous nous posons dans une posture de jugement, nous allons comparer ce que nous sommes, nous allons comparer ce que nous faisons avec ce pourquoi Dieu nous a fait. Nous allons peut-être même nous comparer avec Dieu. Et si nous prenons une balance, d'un côté il y aura nous et de l'autre côté il y aura Dieu, eh bien on est sûr d'une chose, c'est que nous perdrons. Et alors le jugement qui est fait, c'est le mien, puisque Dieu est parfait, immense, glorieux, et que moi je suis petit, faible, moche et laid, il faut donc que je m'éloigne de lui. Évidemment, c'est pas une bonne idée. Parce que Dieu, lui, il n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver. Étonnamment, par un cadeau immense, il nous donne sa vie. Et là, brutalement, d'un seul coup, nous voici transformés et nous sommes élevés à sa hauteur. C'est surprenant, c'est étonnant. Il n'y a pas vraiment de mots pour dire cela. Dieu nous aime tellement qu'il fait de nous des êtres à son image et à sa ressemblance. Les orientaux, orthodoxes ou catholiques d'ailleurs, aiment bien parler de divinisation. Finalement, Dieu veut nous rendre tellement comme lui que nous sommes rendus divins. Les latins, nous, on dira plutôt qu'on est sanctifiés, mais ça revient au même. Alors, être sanctifié, c'est d'abord et avant tout, non pas poser des actes extraordinaires, c'est d'abord reconnaître que nous dépendons de Dieu. Dépendre de Dieu, c'est pas très confortable. On préférerait dépendre de nous-mêmes. On préférerait être vraiment autonome. Or, nous choisissons de reconnaître que nous dépendons de Dieu. Et cette dépendance, la reconnaissance de cette dépendance, c'est ce qu'on appelle l'acte de foi. L'acte de foi. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. Dans quelques semaines maintenant, Céline va recevoir le baptême. Et je l'interrogerai dans quelques semaines pour lui demander, mais... Que demandez-vous à l'Église ? Et elle me répondra, je demande la foi. Un cadeau qui lui sera fait. Le moyen d'être connectée à Dieu, en fait, elle va recevoir comme un canal. Un canal qui lui permettra d'accueillir l'amour de Dieu, la vie de Dieu, la grâce de Dieu dans sa vie. Et alors, puisqu'elle sera pleinement dépendante de Dieu, elle pourra faire ce que fait Jésus lui-même. Elle pourra s'offrir au Père. Elle pourra s'offrir au Père. Nous sommes faits pour cela. Est-ce que c'est confortable ? Non, ce n'est pas confortable. Est-ce que ça nous donne la joie ? Est-ce que cela nous comble ? Oui, nous sommes faits pour cela. Alors, en ce dimanche, qui est un dimanche de joie, parce que nous nous rappelons que Dieu nous sauve, nous voulons accueillir le cadeau que Dieu nous fait, le cadeau de la foi, le cadeau de sa vie, le cadeau de son amour. Laissons-nous porter par le Christ. Il veut nous offrir au Père, laissons-nous faire.